On continue aujourd'hui dans l'Ecclésiaste. Ça fait un moment qu'on étudie ce livre. Et c'est vrai que ça peut être un livre un peu difficile à lire, difficile à comprendre. Il faut prendre garde de ne pas prendre des considérations qui sont faites sous le soleil, c'est-à-dire sans penser à Dieu, comme étant la parole de Dieu inspirée qui nous dit que la vie n'est que futilité, la vie ne sert à rien. C'est un parcours qu'on a fait avec l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Et on pense que c'est à la fin de sa vie qu'il écrit ce livre, ce texte qui nous est parvenu et qui nous montre comment aborder la vie avec sagesse. Et la première partie du livre, en fait, c'est les premiers 10 chapitres sont assez décourageants parce qu'il se concentre sur la vie sans égard pour Dieu, ce qu'il appelle la vie sous le soleil, encore une fois. Et sa conclusion, c'est que c'est assez futile, c'est assez vain, et que la mort est inévitable, la vie est pleine de surprises, la vie n'est pas prévisible, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'on va mourir. Ce n'est pas le genre de choses qui viennent vous réconforter si vous éprouvez des difficultés dans votre vie, des difficultés d'ordre moral, d'ordre émotionnel, d'ordre physique. Mais on arrive à la fin et je vous remercie, vous qui êtes encore là, parce qu'on va voir que il a des conseils plein d'enthousiasme et plein de simplicité pour vivre la vie d'une façon qui vaille la peine. C'est la grande question. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et au début de son exploration, il voyait que le travail est vain, la sagesse est vaine, les richesses sont vaines, tout est éphémère. Quoi qu'on fasse, qu'on essaye de vivre bien ou mal, on finit par mourir et on ne peut pas conserver les biens qu'on accumule. Des tas de raisons qui pousseraient à se dire la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Elle est déjà tellement brève, même si on vit 120 ans, nous qui sommes arrivés à un âge avancé ou vous qui êtes encore très jeune et qui pensez vous avez la vie devant vous, vous allez voir que la vie, elle passe très vite. La vie, elle est répétitive. Il y a le cycle des saisons, le cycle des rythmes de la vie. C'est intéressant de voir qu'on a des bébés qui sont déjà plus des bébés. Je voyais Raphaël qui est déjà un grand bonhomme. Et bientôt, c'est l'adolescence, bientôt, c'est l'âge adulte, c'est le mariage, c'est les enfants, et le cycle recommence. Et on va lire ce que l'Ecclésiaste a à nous dire aujourd'hui dans le chapitre 11. On lira peut-être le premier verset du chapitre 12 également. Prions. Seigneur, merci pour ce livre. Ce livre assez curieux, qui peut nous décontenancer, qui peut nous interpeller, qui peut nous paraître un peu bizarre, Seigneur, mais lorsqu'on prend le temps de suivre le Saint-Esprit dans la révélation de ce texte, Seigneur, on voit que tu veux nous montrer toutes les fausses routes qu'on peut prendre et que la seule qui compte, c'est la vie qui te prend en compte, Seigneur. C'est la vie qui t'honore, la vie qui cherche à te glorifier. Seigneur, tu nous as fait partir par ce texte dans différentes directions où nous pouvons chercher notre raison d'être, des raisons à notre vie, Seigneur, mais tu nous ramènes à toi. Tu nous montres que la seule chose qui compte, en fait, c'est notre relation avec toi, parce que contrairement à tout le reste, elle va être éternelle, Seigneur. Elle est éternelle. Seigneur, aide-nous encore ce matin, par ton Esprit Saint, à comprendre, à voir ce que tu veux dire à chacun, Seigneur. Et ce matin, je crois que tu as des choses importantes à nous dire. Tu veux nous reprendre, tu veux encourager certains qui sont peut-être paralysés dans des décisions à prendre. Je prie aussi pour que tous ceux qui pourront écouter ce message par la suite en ligne pourront écouter ta voix et être guidés par ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse, la vérité de ces propos. Nous prions toutes ces choses dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va lire le texte du chapitre 11 et même un verset dans le chapitre 12. Encore une fois, les chapitres que l'on trouve dans la Bible, ce sont des divisions qui ont été apportées par la suite, pas par l'inspiration du Saint-Esprit. Ça nous permet de nous repérer dans le texte et de savoir de quoi on parle, de pouvoir lire ensemble des textes. Donc moi, je vous invite à aller au chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre, et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni dans l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Et verset 12, le premier verset. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras : je n'y trouve aucun agrément. Un texte dont on connaît certaines des expressions. C'est toujours intéressant si on a lu un peu la Bible, on se rappelle de cette idée de jeter son pain sur l'eau. On a l'idée aussi qu'il faut se réjouir pendant sa jeunesse. Et souvent, on ne sait plus trop où on les a vus, ces passages. Ils viennent de ce livre de l'Ecclésiaste, le prédicateur qui s'adresse à l'assemblée de l'époque, mais aussi l'assemblée de tous les chrétiens qui peuvent, comme nous aujourd'hui, lire la Bible et ses passages en particulier. Il y a, devant ce texte, différentes façons de l'aborder. Et tout d'abord, ça commence par cette idée de jeter son pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la pêche. Dans la région, on peut attraper, ou on pouvait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, pêcher le mulet. Et le mulet, ça se pêche avec de la pâte, de la farine, du pain, qui peut être tressé, qui peut être auquel on peut ajouter quelques parfums pour attirer les poissons. Au point que pour les attirer, on pouvait jeter du pain dans l'eau, ce qu'on appelle appâter les poissons. Et j'allais des fois dans les boulangeries demander le pain sec. Et on vous donne un grand sac de pain sec. On pourrait l'utiliser sans doute pour faire des toasts et quelque chose, mais c'est le pain qui est jeté. Et ce pain, on le laisse tremper toute la nuit dans de l'eau ou avec un peu de lait. Et quand on va à la pêche, on peut jeter cette mixture dans l'eau. Et on voit les poissons qui sentent ça de loin, qui arrivent. Donc quand je lis « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras », je pense à ça. Des fois aussi on peut se dire « Mais si on jette le pain, un croûton sec ou une bonne baguette dans l'eau, elle va devenir toute imprégnée d'eau, elle va se dissoudre. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?« Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. » Et puis il continue, donne une part à 7 et même à 8. Cette idée qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a trois choses que je déteste et même une quatrième. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je n'aime pas, mais là c'est donne à 7, donne quelque chose, donne une part à manger peut-être, à 7 et même à 8. Ça veut dire ne sois généreux. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il reprend le thème que la vie est imprévisible, que tout peut aller bien et que du jour au lendemain, on se retrouve, on fait le diagnostic d'une maladie grave, on est victime d'un accident qui peut nous paralyser. Et puis il continue, quand les nuages sont gonflés de pluie, Il y a des fois, on voit la pluie qui arrive, il y a des nuages bien noirs et dessous, on voit une espèce de voile. En fait, ce voile, c'est la pluie qui tombe. Il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, devinez où il va se retrouver. À la place où il va tomber, qu'il va rester. On a fait du nettoyage aux enfants à la montagne, au camp de retraite, camp de vacances à Saint-Martin-Vésubie. Et il y a encore un gros arbre qui a été coupé et on ne l'a pas encore débité, on ne l'a pas encore bougé. Il est toujours là où il est tombé. Alors je disais que on peut voir ces choses de différentes façons. J'aime bien l'idée que ce texte nous dit que dans la vie, il faut prendre des risques. Les conseils traditionnels qu'on trouve dans le monde, ils nous paraissent pleins de sagesse, mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne sont pas bibliques. Pour les personnes qui, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on nous dit vas-y doucement, vas-y mollo, ne te fatigue pas trop, ne fais pas trop d'efforts, tu vas peut-être te faire mal au dos. On nous dit souvent sois prudent, ne prends pas de risques. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en fait les risques ne sont pas en eux-mêmes un péché. C'est même plutôt un signe de foi que de prendre des risques lorsqu'ils sont empreints de la volonté de Dieu, empreints d'un désir de plaire à Dieu. On nous dit, quand on prend de l'âge, maintenant, c'est pas le moment d'aller donner tout ce que tu as aux pauvres. Garde ce que tu as, les choses vont sans doute aller en empirant. C'est une vue très pessimiste de l'avenir qui, en fait, nous pourrit la vie. Et au niveau de... C'est vrai au niveau individuel, mais je crois que ça se vérifie au niveau d'une nation tout entière, d'un continent tout entier. On voit l'arrivée des migrants en Europe et on met des barbelés. On a peur que ça aille en empirant. Tout ça, c'est des conseils, encore une fois, qui sont apparemment pleins de sagesse, mais ce n'est pas les conseils de la Bible, ce n'est pas les conseils de Dieu. Ce premier verset, encore une fois, il y a différentes façons de voir les choses, mais dans ce cas de dire prendre des risques, c'est prendre des risques en étant généreux. Est-ce que vous êtes généreux? La Bible nous dit qu'il n'y a plus de bonheur, de bénédiction à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous essayez quelquefois d'en faire l'expérience? Que ce soit en aidant des gens dans le besoin, que ce soit même dans le cadre de la dîme à l'église, est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous le faites de façon parcimonieuse, en disant « oui, mais il faut que j'en garde de côté, on ne sait pas ce qui peut se passer » ou est-ce que vous faites confiance à Dieu? Et je ne me pose pas en exemple, mais dans ma vie, ça a été un exemple. J'ai pu vérifier que quand on est généreux, le Seigneur est plus que généreux en retour. Au lieu de vous recroqueviller, de vous protéger, lâchez-vous. Soyez généreux. Votre générosité sera payée en retour. Et ça, ce n'est pas seulement l'Ecclésiaste qui le dit, c'est Jésus même qui disait « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Quand une vie est vécue pour les autres, Dieu nous repaye au centuple. Il est fidèle pour nous donner des bénédictions en retour. Et je vous invite vraiment à recevoir ces paroles. Ce n'est pas moi qui parle, du moins j'espère que c'est le texte qui va vous toucher. Mais le Seigneur est peut-être en train de vouloir répondre à des questions que vous vous posez sur votre avenir, sur la façon de vivre, sur des choses qu'il a mis devant vous, des risques des risques à prendre qui sont en tête. Et là, c'est une exhortation au courage de vivre, pas à la peur et qui nous recroqueville sur nous-mêmes. J'ai dit donc, on peut voir ce texte dans l'idée de prendre des risques en étant généreux. Certains voient aussi dans l'idée d'envoyer son pain à la surface des eaux, voient un aspect de prendre des risques, même dans le commerce. On sait que le roi Salomon avait une flotte qui était partie au loin, qui allait chercher des biens dans d'autres pays. Un roi 9-26, si vous voulez noter. Le roi Salomon construisit des navires à Etzion-Guéber, près d'Eliliath, sur les bords de la mer des Joncs. C'était en Égypte, dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ces navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir Et ils y prirent de l'or, 420 talents, ça fait des 12 tonnes d'or, qu'ils apportèrent au roi Salomon. Ces bateaux, lorsqu'ils partaient, ils disparaissaient de la vue du roi, et c'était un pari sur l'avenir, un pari sur un investissement. Il y avait aussi une autre dimension qui, je crois, est tout à fait applicable et justifiée, parce qu'elle est reprise dans bien des passages de la Bible, c'est de prendre des risques au niveau spirituel. Est-ce qu'on va, on connaît l'Évangile, on est sauvé par Dieu, par le sacrifice de Jésus à la croix, lorsque nous mettons notre foi en lui? Est-ce que ce salut, nous allons le garder pour nous-mêmes? Ou est-ce que nous allons l'envoyer au large? Est-ce que nous allons le jeter sur l'eau? C'est une façon de voir le texte qui me paraît tout à fait applicable et justifiable. Et je crois que c'est le même genre d'esprit de foi en Dieu qui va pourvoir à nos besoins matériels lorsque nous sommes généreux, qui va bénir nos entreprises, les choses dans lesquelles on peut se lancer lorsqu'elles sont en accord avec les principes divins, lorsque ce n'est pas pour faire une entreprise criminelle ou quelque chose de cet ordre-là, et aussi dans la dimension spirituelle. Est-ce qu'on prend des risques spirituels? Ou est-ce qu'on se dit, ça c'est pour les fanatiques, il faut quand même être prudent? Alors c'est vrai que la prudence de Dieu peut être de mise, mais en même temps, je crois qu'on a, et je parle pour moi, on a tendance à trop vouloir conserver ce qu'on a acquis. La situation, la position, l'Église, on se dit, maintenant il s'agit de faire durer. Le Seigneur n'est pas dans ce genre d'économie, parce qu'il est là pour nous rattraper. Il est là pour nous dire, vas-y, fonce. C'est aussi lorsqu'il dit « donne une part à sept et même à huit », on peut voir ça donc comme une générosité envers beaucoup de monde, une générosité qui va finir par revenir sur nous lorsque nous, à notre tour, nous serons dans le besoin. Mais on peut prendre ça comme un investissement. Au lieu d'investir dans une seule direction, on peut investir dans plusieurs directions. Au lieu de faire un travail spirituel dans une seule direction, on peut s'essayer à différentes choses. Souvent, lorsqu'on se dit « quels sont mes dons spirituels ?» La réponse, c'est qu'il y en a peut-être qui sont déjà évidents pour vous, mais est-ce que vous avez essayé de faire telle ou telle autre chose qui pourrait montrer d'autres dons? Ou est-ce que Dieu ne va pas vous donner le don qui vont correspondre à vos besoins lorsque vous vous lancez dans une nouvelle direction? Il nous dit que on peut être paralysé si les choses sont trop analysées. La paralysie qui vient de trop d'analyse. Avant de faire quoi que ce soit, on va passer des heures, des jours, des fois des mois, des années, avant de finalement obéir à ce que Dieu nous demande. Parce qu'on va avoir tous les atouts en notre possession. Et la sagesse nous dit, lorsque Vous avez une décision à prendre. Faites une liste des plus, faites une liste des moins. C'est pas sot en soi. Mais il y a toujours l'élément critique de faire confiance à Dieu si on pense que c'est lui qui nous a appelés dans une direction ou dans une autre. Et là, c'est ce qu'il dit, lorsqu'il observe le vent ne va pas semer, qui va fixer les regards sur les nuages ne va pas moissonner. Autrement dit, si vous attendez les conditions idéales pour faire quoi que ce soit dans la vie, vous n'allez rien faire. Est-ce que vous prenez le risque d'échouer? On dit dans la sagesse populaire même, qui ne tente rien n'a rien. En anglais, nothing ventured, nothing gained. Si on ne prend pas de risque, on ne va rien retirer en échange. Et la plupart des entreprises humaines, c'est quelqu'un qui a pris des risques. On voit la folie des iPhones. Ça a commencé avec deux gars dans un garage. Ils se sont dit, on arrête nos études, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a déjà étudié. On ne sait pas tout encore. C'est vrai dans le domaine industriel, c'est vrai dans le domaine spirituel. Les apôtres ont fait confiance à Jésus. Ils ont vraiment cru qu'il était ressuscité et qu'il leur avait donné l'ordre d'aller annoncer de par le monde la bonne nouvelle. Et si nous sommes là, c'est parce qu'ils l'ont fait, qu'ils ont obéi, ils ont pris des risques énormes, leur vie. On se soucie des fois de... Lorsqu'il parle des nuages gonflés de pluie et des arbres qui tombent, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On aimerait bien pouvoir contrôler la pluie. Il y avait même une expérience en France dans les années 60, à l'époque des 30 Glorieuses, où on pensait maîtriser toutes les choses. On avait pas de pétrole, mais on avait du gaz, le gaz de lac. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était dans le sud-ouest, dans les Landes. Et avec ce gaz, ils avaient mis des chaufferies, un système qui pouvait dégager des flammes et de la chaleur autour d'un grand terrain. Et ils pensaient que s'ils mettaient la chaleur, ça ferait dissiper l'eau, les nuages, et qu'ainsi l'homme allait pouvoir contrôler la température, la pluie, le beau temps. Ça donnait quelques résultats intéressants, mais qui étaient loin d'être applicables à une grande échelle, bien sûr. Et on ne peut pas contrôler les nuages, on ne peut pas contrôler la météo. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de la prévoir. Maintenant, on essaye un peu et c'est toujours aléatoire, plein de risques. La chute d'un arbre, une tempête qui arrive, un arbre qui tombe. Il n'y a pas longtemps, il y a un arbre qui est tombé pas loin de chez nous. Heureusement, il n'a pas fait de victimes, mais il aurait pu tomber sur une voiture où on a vu dans le sud-ouest, il y a eu des tempêtes, il y a eu des morts. Il nous dit, ces choses-là qui sont en dehors de votre contrôle, ce n'est pas la peine de vous en soucier. Alors, on peut prévoir un toit, mais on n'a pas à se dire, je vais attendre que les conditions soient idéales, parce que, comme il le dit, verset 4, si on attend que le vent soit parfait, le matin, on va pas semer la semence. Et si on attend qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de pluie, On va laisser la récolte mourir sur place. Et ça, c'est vrai dans les autres domaines dont on a parlé. La générosité, lorsqu'on donne aux autres, on aimerait être sûr que l'argent qu'on donne va être bien utilisé, qu'elle va aider les gens à sortir de leur situation financière difficile. Lorsque l'on fait un investissement, on voudrait être sûr que ça va rapporter plus que l'investissement. Spirituellement, on se dit à quoi bon faire de l'évangélisation en plein été, ce qu'on va peut-être faire avec le programme de Bouge ta ville qui a été reporté maintenant probablement à l'été prochain. Parce qu'il n'y a que des touristes, parce que ceci, parce que cela. Les gens viennent ici pour faire la fête, pas pour écouter l'évangile. Si on attend qu'il y ait des conditions parfaites, on ne va jamais faire d'évangélisation. Si on se dit, je ne peux pas aller parler de Dieu parce qu'il y a encore du péché dans ma vie, mauvaise nouvelle, vous n'allez jamais parler de Dieu. Tant que nous serons de ce côté de l'éternité, le péché sera une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter, pas faire tous nos efforts avec l'aide de Dieu pour progresser et ne plus commettre de péché. Mais si on dit qu'on n'a plus de péché, la Bible nous dit que nous mentons, nous nous trompons, nous faisons de Dieu un menteur. Comme tu ne connais point le mouvement du vent. Alors aujourd'hui, on dira peut-être, mais maintenant on connaît le mouvement du vent. Ben, oui, on le prévoit parce qu'il y a des conditions, mais on ne sait pas quel temps il fera pour la retraite. On espère, on prie pour qu'il y ait un temps superbe, comme on a eu cette semaine, c'était le temps idéal. La température fraîche durant la nuit, qui monte durant la journée, pas de vent fort, un temps calme. La verdure, les montagnes, idéal. C'est bon, Seigneur, stop, le réglage, reste là. Mais ce n'est pas le cas. On ne connaît pas ce qui peut se passer. Il pourrait y avoir des tempêtes, il pourrait y avoir de la pluie. Heureusement, il y a un toit, mais rien, on ne connaît point. C'est quelque chose qui revient dans ce texte, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses. On ne connaît point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte. Une autre traduction, et le texte parle plutôt de la formation des os dans le ventre de la maman. C'est quand même curieux que tout ça, dans le ventre d'une maman, tout reste souple, et pourtant il y a des os qui sont en formation. Alors aujourd'hui, on pourra expliquer, c'est la genèse osseuse, l'ostéogenèse, ou je ne sais pas quel nom il y aura. Il y a des points qui commencent à se développer, mais quand on y pense, c'est quand même fantastique. Et j'ai appris une chose avec la présence de Daphné, c'est que les bébés n'ont pas de rotule. Ah! C'est que seulement vers l'âge de 3-4 ans que ça se ossifie et que ça devient un os vraiment. Avant, c'est un cartilage souple. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun mal à prendre leur pied, comme on dit familièrement. Ils se prennent le pied, ils n'ont aucun problème de flexibilité. Mais on ne sait pas toutes ces choses-là. Alors maintenant, la science nous donne des explications, mais c'est reculer pour mieux sauter. On ne sait toujours pas comment ça s'organise, comment. Ou alors, on parle d'ADN, mais on est encore en pleine recherche. On ne sait pas. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Si l'un des deux va marcher, si les deux vont marcher, si tout va échouer, c'est un conseil qu'on, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ne soyez pas paralysés parce que vous ne savez pas. Faites. Ne soyez pas paralysés pour prendre un risque parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Comme dirait Nike, just do it. Alors ça peut être pris dans des tas de mauvais sens, mais des fois, c'est prenez le risque. Sans vouloir me mettre en exemple de quelqu'un qui prend des risques sans arrêt, j'ai plutôt tendance à être prudent à l'excès et ne pas prendre de risques. Mais j'ai eu une époque dans ma vie où je sentais que le Seigneur me disait de quitter mon travail dans l'informatique pour essayer de venir implanter une église. Voir ce que je pouvais faire pour le Seigneur. Et c'était, je ne l'avais jamais fait. C'est quelque chose auquel, 5 ans plus tôt, je n'aurais jamais, jamais pensé. Si on m'avait dit qu'un jour je serais pasteur, j'aurais dit, ça ne va pas la tête. Vous me connaissez comme pasteur, mais certains qui me connaissent d'avant savent que rien ne me prédestinait à être pasteur, sauf qu'à un moment donné, j'ai pensé avoir l'appel, reçu un appel de Dieu, et que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet appel ? Et j'avais entendu un programme à la radio, un sermon, où le pasteur expliquait, il disait, est-ce que vous voulez arriver à 70 ans, et pour moi c'est bientôt, ou 80 ans, et vous demandez, je me demande bien ce qui serait passé si j'avais écouté l'appel de Dieu, ou ce que je croyais être l'appel de Dieu. Et je me suis dit, oh ça c'est pas très encourageant ça. Ne rien faire et se dire, qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait quelque chose ? Et ça, c'est dans un domaine, mais dans les domaines de votre vie, si vous n'aviez pas suivi cette formation, si vous ne vous étiez pas marié avec cette personne que le Seigneur vous a menée dans votre vie, vos enfants ne seraient pas là. Vos petits-enfants ne seraient pas là. Vos arrière-petits-enfants ne seraient pas là. Il y en aurait d'autres, peut-être. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de lui faire confiance. 2 Corinthiens 9, 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Ça, c'est une promesse qui est faite dans le cadre de la dîme, de donner de l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Si on attend les conditions idéales pour semer, pour évangéliser, pour se lancer dans quelque chose auquel on pense que Dieu nous appelle, on ne va rien récolter, on va récolter très peu. Par contre, si on a lancé plein de projets, il y en a qui vont peut-être finir par payer. Si on fait des œuvres pour le Seigneur dans différents domaines, peut-être qu'il y a un domaine qui va d'un seul coup donner du fruit, qui va être en harmonie avec les besoins des gens autour de nous et que le Seigneur va pouvoir bénir. C'est fantastique. Il y a un autre passage qui évite le découragement. C'est dans Galates 6. Vous le connaissez tous, ce passage, Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, cette idée de semer, Il nous met en garde, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire des projets qui sont contre la volonté de Dieu, par essence, des choses immorales, des choses basées sur la tricherie, mettre des logiciels qui trompent les autorités sur la pollution des voitures. Je suis très sérieux, si ces gens-là suivaient la parole biblique, il n'y aurait pas ces scandales, il n'y aurait pas ces choses énormes, parce que l'homme s'est éloigné de Dieu, il vit sous le soleil comme si Dieu n'existait pas, si le péché ne nous rattrapait jamais. Il suffit de lire les nouvelles et voir comment les gens sont rattrapés par les affaires, rattrapés par les choses plus ou moins louches. Les salaires de 2 millions de francs suisses pour un travail, qu'est-ce qui peut valoir 2 millions de francs suisses? Une analyse du football? Je parle de. Si vous êtes au courant, vous savez de quoi je parle, sinon c'est pas grave. Il dit, la lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Par rapport à l'obscurité du péché, du manque de projet, de la vie étriquée, du repli sur soi. Si on vit devant Dieu sous le soleil de Dieu, pas sous le soleil de la terre astronomique, sans égard pour Dieu, on va avoir cette lumière qui est souvent un type de la vérité. Le soleil, c'est un type, une illustration de la chaleur. Il fait bon au soleil quand il y a de la lumière et de la chaleur. Quand il pleut et qu'il fait froid, c'est pas drôle. On sort pas dehors. On essaye de recréer de la chaleur et de la lumière à l'intérieur. C'est pour ça que les maisons dans les pays du Nord sont si chaleureuses à l'intérieur. On va en Suède, vive Ikea. On va en Suisse, les chalets, plein de chaleur à l'intérieur. Ici, les gens sont moins soucieux de l'intérieur parce qu'ils ont le soleil et la lumière. La chaleur et la lumière à l'extérieur. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours des ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Pensées traditionnelles, c'est que le bonheur, c'est pour la jeunesse. Il va parler de la jeunesse et il va dire que on doit se réjouir pendant l'adolescence. La jeunesse, c'est une chose merveilleuse. Si vous êtes jeune, si vous considérez encore comme jeune, c'est formidable. Mais ce n'est pas le seul moment où vous pouvez profiter de la vie. Vous pouvez profiter de la vie dès que vous êtes bébé, quand vous êtes un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte confirmé, un adulte encore plus confirmé, un vieux et même un vieillard. On a de quoi se réjouir dans toutes nos années. Si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes. Parce que, et là, il reprend une vision un peu pessimiste, la mort attend celui qui ne se confie pas en Dieu, et là, ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. On pourrait penser que oui, la jeunesse est formidable, il faut s'éclater quand on est jeune. Suivre son cœur, c'est ce que la philosophie ambiante nous apprend. Du moment que tu suis ton cœur, il n'y a pas de problème. Désolé, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Nul ne peut le connaître. Notre cœur, il va être égoïste, notre cœur, il va être prêt à tromper, notre cœur, il va être plein de choses tortueuses, parce qu'il l'est, s'il n'est pas régénéré par Dieu. Et donc, il met en garde le jeune homme à qui il parle, c'est bien de se réjouir, de marcher dans les voies de ton cœur, de voir des choses et de les suivre. Mais attention, Dieu va te faire venir en jugement. Il va y avoir un jugement à la fin de ta vie. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais Dieu peut nous donner les désirs de notre cœur si nous le cherchons. Il peut nous montrer de belles choses à poursuivre. Il nous aime, il a de bons plans pour nos vies. Nous vivons dans un monde entaché par le péché et des choses difficiles, des ténèbres vont arriver dans nos vies, des accidents, des décès, des maladies, l'âge qui va finir par nous rejoindre. Même si c'est 120 ans, ça nous paraît long, mais c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Et puis il continue en « Écarte de ton cœur le tracas et éloigne de toi le mal de ton corps. Car l'adolescence et l'aurore sont vanité, c'est du vide. Ça passe vite, c'est comme une vapeur. Écarte de ton cœur le tracas. » C'est le sens de tout ce qui peut nous stresser, tout ce qui peut nous inquiéter. Ça peut être la rébellion, ça peut être des tas de choses qui sont paralysantes. C'est des choses qui ne nous permettent pas de vivre pleinement pour Dieu. Et ces choses-là, l'Ecclésiaste nous dit de les écarter de notre cœur. Et ça fait penser aux choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Comme on a vu, le vent, coup de vent, la météo, la pluie. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et ça ne doit pas nous empêcher de profiter de la vie. Mais éloigne de ton cœur les soucis qui ne mènent à rien. Et aussi, il dit, éloigne le mal de ton corps. On dit, éloigne le mal de ton corps. Est-ce qu'il n'y a pas des conseils d'hygiène de vie qui font que, même si c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une maladie grave, d'un accident, mais si on vit loin du péché, si on vit de façon qui honore Dieu, notre vie va être en meilleure santé. On sait que les chrétiens vivent plus longtemps que... C'est des statistiques aux États-Unis qui montrent que les chrétiens vivent plus longtemps que les païens. Ça ne donne pas à l'alcool, au jeu, à l'adultère, aux maladies de toutes sortes, vénériennes. Vivre pour Dieu, ça a tendance, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attraper une grave maladie et en mourir, rapidement même. Mais c'est le conseil qu'il donne aux jeunes, dès votre plus jeune âge, essayez de prendre des bonnes habitudes de vie. Vous qui êtes jeune, c'est le moment de former une relation avec Dieu qui va vous guider tout le reste de votre vie. Il faut que ce soit dès le plus jeune âge. Pourquoi attendre? Certains pensent que je vais me tourner vers Dieu quand je serai plus âgé. En attendant, je vais profiter de la vie. Ça, c'est un mensonge du diable qui vous fait croire que d'être avec Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas drôle du tout. En fait, c'est la vie abondante, nous dit la Bible. Jésus est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Certes, on ne va peut-être pas faire des bêtises que les gens autour de nous trouvent plaisir à faire, mais quelque part, on va être satisfait, notre relation avec Dieu va être préservée, on va avoir des habitudes de vie saines, on va prendre des risques que Dieu nous invite à prendre. Et on va avoir une vie abondante, une vie qui a du sens et qui fait du bien aux autres autour de nous et à nous-mêmes. Et là, j'ai voulu inclure le verset 1 du chapitre 12, parce que là, il nous dit « Souviens-toi de ton Créateur ». C'est la première fois qu'il parle du Créateur dans ce texte. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « je n'y trouve aucun agrément ». Si vous êtes jeune et que vous venez à Dieu, que vous vivez pour lui, c'est le sens de se souvenir, c'est pas seulement de « ah oui, il y a un Dieu », c'est d'agir de telle façon qu'on honore Dieu, qu'on agit pour quelqu'un, agir pour Dieu. Dès votre jeunesse, vous qui êtes encore jeune, adolescent ou jeunes adultes, ou bébé, comme Juliane, profitez de cette jeunesse pour penser à Dieu et de vous mettre avec Dieu pour le restant de vos jours. Parce que les jours du malheur viennent, l'âge, la mort, les années vont se rapprocher où la vie ne va plus être drôle. Je n'y trouve aucun agrément. Des fois, on entend des personnes âgées qui disent « je préférais être morte, je ne peux plus bouger, je ne peux plus voyager, je ne peux plus... tout ce que je suis, c'est... je suis coincé dans un lit ». Et c'est vrai qu'on peut prier encore, on peut servir Dieu, on peut être un encouragement pour ceux qui passent par les mêmes épreuves. Et on connaît des personnes autour de nous qui font ça. Mais, à combien plus forte raison c'est merveilleux de pouvoir donner sa vie, son énergie, ses talents, sa santé pour servir Dieu. Et donc, c'est un passage remarquable, je trouve, que cette invitation à la générosité, à l'activité, à l'évangélisation, faire des choses pour Dieu, que ce soit dans le domaine de la bienveillance envers les autres, dans le domaine des risques professionnels qu'on peut prendre, pour servir Dieu. Et encore une fois, servir Dieu, ça ne veut pas dire être pasteur ou missionnaire. On peut servir Dieu dans tous les domaines de la vie, tous les domaines des activités humaines, sauf peut-être la mafia. Et l'industrie du crime, mais toutes les industries, il n'y a aucune activité qui devrait être en dehors du contrôle de Dieu. Et il a besoin de personnes qui l'honorent, qui le respectent. Je suis encore frappé par cette réflexion du chirurgien qui a opéré Nancy pour cette petite opération qu'elle a eue il y a une semaine, qui disait « Quoi, il y a encore des gens qui croient ?» Et pourtant, on sait qu'il y a des gens qui font des efforts. Il y a le groupe des Gédéons qui place des bibles dans les cabinets médicaux, qui place des bibles dans les hôtels. Mais visiblement, il n'y a pas assez de monde qui sème la parole dans ces endroits au point que ça paraît irréel que quelqu'un ait la foi aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, et même si c'est un texte difficile, je vous invite vraiment à l'utiliser avec les gens auxquels vous parlez de Dieu. Il est facile de voir que les gens font l'impasse. Ils prévoient leur retraite. Ils vont même aller défiler dans la rue si on bouge l'âge de la retraite. Mais ils font l'impasse sur ce qui va se passer après. Vous pouvez leur rappeler que s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils ont dans leur cœur le sentiment de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11. On sait qu'une personne morte, ce n'est pas la fin du voyage. Il y a toute une vie qui nous attend. Et cette vie présente, c'est comme une préparation, c'est comme une façon de se préparer pour l'éternité. Alors je sais, on peut penser que c'est un peu morbide, que c'est un peu aléatoire. Personne n'en est revenu. Ils disent, mais Jésus est revenu. Et on a même quelques personnes qui ont vu la mort et que Jésus a ramené à la vie pour un temps. Mais on a un rendez-vous. Hébreux 9 dit que tous nous sommes appelés à passer en jugement devant Dieu. Et la vie, encore une fois, ce passage nous montre que ça ne doit pas être une vie repliée sur soi. Ce n'est pas une vie étriquée, ce n'est pas une petite vie. L'idéal de vous qui êtes jeune, j'espère que ce n'est pas le pavillon de banlieue que vous aurez à la retraite. J'étais surpris, j'avais 10 ans, j'avais un ami, et je crois que c'était sous l'influence de ses parents, il avait tout un plan de carrière, il allait rentrer dans l'armée, on peut prendre sa retraite assez tôt dans l'armée, après 25 ans de service, et il vivait déjà pour la retraite à 10 ans. Je lui disais, mais tu ne peux pas prendre un métier passionnant d'entrée plutôt que d'aller faire l'armée que tu n'as pas envie de faire pour avoir le plaisir d'être enfin libre à 40 ans ou 45 ans de faire ce que tu as envie de faire. Et donc ce texte, il est puissant. J'espère que si vous avez des questions, vous avez besoin d'être un peu encouragé à prendre des risques pour Dieu, vous allez être touché par ce texte. Commencez tout de suite à prendre des risques, à donner de vos biens, de vos choses, d'entreprendre. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour prendre ces risques. Et sachez aussi que l'ennemi va attaquer. On va vous critiquer dans votre entourage. Quoi ? Tu veux quitter ton emploi d'informaticien aux États-Unis pour venir essayer d'implanter une église en France? Ça ne va pas à la tête. Tu t'es fait baratiner, tu t'es fait endoctriner. Alléluia. Une saine endoctrination, la Bible. Prenons des risques pour Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. On voit qu'elle est pleine d'applications pratiques pour nos vies, Seigneur. On voit que souvent on vit influencé par les conseils du monde qui nous entoure. Un monde qui n'a pas trouvé les solutions, un monde qui ne connaît pas l'avenir, mais un monde qui agit souvent par les motivations de peur et d'orgueil, Seigneur. Toi, tu veux nous libérer de tout ça. Tu nous demandes de te faire confiance, de demander que tu nous donnes les désirs qui viennent de toi, Seigneur, les ambitions pour nos vies qui viennent de toi. Aide-nous à écouter ta petite voix, Seigneur, à te rechercher, à donner de la semence de la parole autour de nous, de la semence de nos biens autour de nous, de la semence de nos projets autour de nous, Seigneur. Aide-nous à vivre à fond pour toi, Seigneur. Et merci parce que ce genre de vie, c'est une vie passionnante, Seigneur. C'est une vie pleine d'aventures avec toi, Seigneur. Pas toujours facile, mais Seigneur, l'assurance que tu nous donnes, c'est que quand nous faisons ta volonté, nous trouvons vraiment le bonheur, même si ça amène des choses difficiles dans nos vies. Mais ces choses difficiles, Seigneur, elles nous attendent que nous vivions pour toi ou pas, Seigneur. Donne-nous la sagesse de voter pour toi, pour nos vies, Seigneur, de te choisir, de te suivre. Et Seigneur, je prie tout particulièrement pour ceux qui peut-être se sont repris ou encouragés ou auxquels tu as parlé ce matin. Donne-leur la sagesse de réfléchir, de prier devant toi, de remettre toutes ces choses devant ton trône de grâce, Seigneur, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions selon toi, Seigneur, non pas selon la sagesse du monde qui a tendance à nous replier sur nous-mêmes et à utiliser la peur pour diriger nos vies, Seigneur. Merci de nous remplir tous de cette vie abondante, de ton esprit, Seigneur. Aide-nous à répandre la bonne nouvelle de ton amour pour les hommes, Seigneur, et du pardon que tu as pour chacun en Jésus-Christ, mort à la croix, pour nos péchés. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.